La chronique de Monique Kirouac. Monique s'est intéressée aux troubles du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité.
Exactement, Hélène. Alors, c'est un article qui est publié dans la revue Epsilon du mois d'août 2026 sous la plume de Marie-Catherine Méra. Alors, fin 2025, Hélène, le hashtag TDAH était tendance sur TikTok.
Oh.
Oui. Au 30 mars 2026, il cumulait plus de 696 000 publications. Alors, on pourrait presque dire que tout le monde veut son TDAH. En fait, c'est ce qu'observe Sarah Fally, qui est psychologue pour enfants dans le service recherche du CHU de Montpellier en France. Bon, TDAH, c'est un trouble caractérisé par deux grandes catégories de symptômes, combinés ou non, l'inattention et l'hyperactivité. Le fait est que le nombre de diagnostics est en augmentation un peu partout dans le monde. Le phénomène est particulièrement marqué aux États-Unis, passé entre 2016 et 2022 de 8,9% à 10,5% d'enfants diagnostiqués, ce qui représente 1 million d'enfants supplémentaires en 6 ans. Je regardais, Hélène, ce qui se passait au Québec.
Oui.
Eh bien, l'Institut national de santé publique, l'INSPQ, estime la prévalence chez la population de 1 à 24 ans à 11,3%, ce qui a quadruplé depuis les années 2000.
On a Donc, présenté un reportage là-dessus récemment à l'émission de Patrice Roy et il y avait aussi le docteur Chiquan là, qui s'exprimait là-dessus.
Oui.
Oui, très intéressant.
Oui, certainement. Alors, on pourra peut-être compléter l'article avec les remarques de Monsieur Chiquan, de Dr Chiquan. En Europe, la tendance est également à la hausse. L'utilisation de médicaments contre le TDAH augmente de 8,96% par an. À croire que nos sociétés occidentales produisent des TDAH à l'appel. De là à douter de l'existence réelle du trouble, ben il n'y a qu'un pas. Et certains n'hésitent pas à le franchir. On entend souvent « le TDAH n'existe pas, il a été inventé pour vendre un médicament ». Ces propos sont malheureusement rapportés relativement fréquemment, de même que le refus de renouveler la prescription médicamenteuse. Incompris et parfois mal aimé, voilà un trouble qui ne cesse de faire parler de lui depuis des décennies. La faute, peut-être, c'est à la complexité de ses origines, entre autres, lesquelles seraient bien plus anciennes que l'on ne le croit. Les premières descriptions du trouble remontent à plus de 200 ans. Dès 1798, un médecin écossais, Sir Alexander Crichton décrit des patients facilement distraits par des stimuli extérieurs, un bruit, de la lumière, et qui paraissent très agités. Ils ont la bougeotte, note-t-il. En 1902, c'est un pédiatre britannique, George Still, je trouve intéressant le nom de famille, Still, hein, qui veut dire stable, inactif,
okay.
sans mouvement, tout le contraire de ce qui se passe avec les enfants, qui détaille le cas d'enfants souffrants, incapables de maintenir leur attention, impulsifs, piquant des crises de colère. La littérature enfantine, elle aussi, dépeint dès le 19e siècle des bambins dont le comportement rappelle étrangement le TDAH. Et on nous parle de Philippe le gigoteur dans un livre illustré allemand animé, publié en 1840. Alors, on nous décrit ce petit Philippe le gigoteur comme un garçon qui est incapable de rester assis tranquillement à table malgré les avertissements de son père. Il se balance d'avant en arrière sur sa chaise jusqu'à tomber à la renverse, emportant avec lui nappe, couvert et nourriture. Le trouble ne s'appelait pas encore TDAH à l'époque. Il ne prendra ce nom qu'en 1980, dans la troisième édition du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, ce que l'on appelle le DSM, édité par l'Association américaine de psychiatrie, qui est devenue une référence, je dirais même une bible, pour les praticiens du monde entier. Avant cela, la littérature médicale évoque successivement un trouble hyperkinétique impulsif, un dysfonctionnement cérébral minime, puis une réaction hyperkinétique de l'enfance à la fin des années 1960, l'accent étant mis sur l'hyperactivité particulièrement visible chez les jeunes garçons. Le lien avec l'attention, qui est l'autre aspect de ce trouble, n'est réellement établi qu'en 1972, dans un article de Virginia Douglas, qui est professeure à l'Université de Montréal. Elle a mis ensemble l'attention et l'hyperactivité pour la première fois et décrit l'effet des stimulants. Ça a été un écrit fondateur pour l'idée du TDAH. Le TDAH est donc une vieille histoire et on nous dit que peut-être même plurimillénaire. Une étude publiée en 2020 révèle que les gènes associés aux troubles existaient déjà et même avec une fréquence plus élevée au paléolithique, il y a donc 45 000 ans.
C'est pas d'hier!
Et levons tout de suite un malentendu. La prévalence n'a pas augmenté depuis 30 ans. Ni en France, ni ailleurs dans le monde. Elle tourne autour de 5 % chez les enfants et de 2,5 % chez les adultes. On ne parle pas là du nombre de diagnostics posés, qui lui est en augmentation, mais bien de la prévalence réelle dans la population, qui, elle, apparaît stable. On nous dit que depuis une quarantaine d'années, il y a des dizaines d'études qui ont été menées aux États-Unis, en Europe, au Canada, en Amérique du Sud, en Asie, et les résultats sont identiques. La prévalence épidémiologique est la même et elle n'a pas évolué au fil du temps. Il n'en reste pas moins que le nombre de diagnostics posés est, lui, à la hausse. Les raisons sont multiples. La première, c'est que le trouble est mieux connu et certainement reconnu par les professionnels de la santé. On pourrait aussi se demander si le surdiagnostic est une mode. La question se pose, en Amérique du Nord, où les chiffres qui atteignent 10,5 % des enfants en 2022, entre autres, mais il y a aussi qu'il n'y a pas que les enfants maintenant. Il y a de plus en plus de diagnostics qui concernent aujourd'hui les adultes. Peut-être dû au fait, Hélène, qu'une fois qu'on a diagnostiqué son enfant, on passe nous-mêmes le test et voilà, on éprouvait ce problème-là, ce trouble-là aussi. On nous dit qu'il y a une pression probablement scolaire dans l'éducation, dans les familles, dans les écoles. Quelque chose pourrait-il avoir changé qui provoque une multiplication des diagnostics? Oui, certes, il y a les symptômes qui sont présents et surtout, il y a le fait des difficultés à l'école, dans la famille et au quotidien. En fait, il y a un dysfonctionnement, il y a un impact réel sur le développement de l'enfant en milieu scolaire. Mais la pression scolaire s'est peut-être accrue aussi, compliquant les capacités d'autorégulation des enfants TDAH. On met sur ces enfants une étiquette, on y associe un programme scolaire particulier et une médication, mais peut-être y a-t-il d'autres moyens de, comment dire, faire en sorte que l'enfant comprenne ce trouble et peut-être réussisse à le contrôler un peu mieux sans toute cette panoplie de mesures de compensation. Il y a un soutien vraiment important de la famille qui demeure central. Alors, je n'ai pas entendu l'entrevue avec Dr. Chicoine. Est-ce que ça va dans le même sens, Hélène?
Oui, complètement, Monique. Il en discutait avec Patrice Roy et, bon, on parlait de certains médecins, certains parents, certains enseignants qui sont peut-être trop vite sur le diagnostic et la médication, et quelquefois à tort, quelquefois à raison, mais le docteur Jean-François Chicoine invitait les parents à envoyer leurs enfants dehors, à jouer dehors, lâcher leur fou. Et quelquefois, on peut se rendre compte que c'est de cela dont les enfants ont besoin plutôt que de médicaments. Mais ils ne mettaient pas tout dans le même panier, là. Il y avait beaucoup de nuances parce que oui, il y a des personnes qui ont vraiment ce trouble-là, mais il y en a d'autres qui pourraient peut-être vivre sans médicaments.
Tout à fait. J'en discutais avec une amie dont le fils a été diagnostiqué lorsqu'il était au primaire. Et comme jeune adulte, il a décidé de se prendre en main. Il a changé son alimentation, entre autres pas de sucre.
Ah oui? Ça a aidé, oui.
Et beaucoup d'activités physiques. Et il ne prend plus de médication. Cette médication, bon, c'est un musicien, l'empêchait presque de composer.
Ah,
alors,
oui.
On peut voir qu'il y a des moyens. Oui, il y a des enfants, certainement, et même des parents qui ont besoin d'un soutien médicamenteuse, mais c'est pas toujours le cas.
Mm-hmm. Faut en discuter, ça fait réfléchir. Je vous remercie,
oui.
Monique. J'ai une entrevue à 10h15, mais on fait un petit pont, puis on y va avec une brève, puis votre capsule linguistique.
D'accord.
De retour avec Monique. Alors, le temps file. Monique, je vous laisse aller. Est-ce que vous voulez parler des 10 000 pas qui suffisent ou pas?
Je vais vous poser la question. Est-ce qu'il est important de parler de tout et de rien, Hélène?
Bien, pour certaines personnes, oui, parce que ça peut nous amener à parler de quelque chose de plus fondamental ou de plus profond.
Vous êtes brillante, chère amie.
Oh, arrêtez.
Il y a 9 études auprès de 1800 Français qui illustrent, en effet, qu'il est important de parler de tout et de rien. On sous-estime le plaisir qu'on tirera réellement de petites conversations de 5 minutes sur des sujets jugés a priori banals, voire un peu ennuyeux. C'est ce qui fait du bien et ça ne tient pas au sujet dont on parle, mais à l'engagement qu'on y met, et celui-ci, or imprévisible, bien souvent émerge d'autres sujets qui sont plus profonds et dont on partage les propos avec ses amis et connaissances.
Bon, alors vive le small talk, même si c'est un anglicisme.
C'est ça.
Et parlant d'anglicisme, Monique, capsule linguistique, on en parlait la semaine passée, j'ai déjà joué dans ce film-là, on l'entend beaucoup dans la bouche de chroniqueurs politiques.
C'est très vrai. Puis, alors Hélène, je vous rassure, il s'agit d'une métaphore familière,
ah bon?
Mais courante. On utilise cette expression pour dire qu'on a déjà vécu une situation similaire, souvent désagréable, et qu'on en connaît d'avance l'issue ou la fin. C'est à peu près l'équivalent de « j'ai un sentiment de déjà-vu, l'histoire se répète, je connais déjà la chanson ou la musique ». Ça demeure familier, donc on l'utilisera dans un contexte d'une discussion avec collègues, entre amis ou en famille, mais on l'évitera dans un écrit formel. Alors on optera fort probablement pour une phrase comme « cette situation nous est familière » ou encore « nous avons déjà été confrontés à ce scénario ».
Bon, alors pour utiliser une autre expression familière, il n'était pas tout à fait dans le champ.
Exactement, Hélène.
Merci beaucoup, Monique. À la semaine prochaine. Portez-vous bien.
À la semaine prochaine. Au revoir.